Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette heure de Ville Lausannoise du mardi soir. C'est le grand direct de Radio Django et bonsoir à toute l'équipe, Ségolène, Daniel et Linda. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
On a trois sujets au menu ce soir dont on va vous parler. On va commencer par vivre à Lausanne comme d'habitude avec une association. Il est question, Ségolène, ce soir de l'association des Jardins du Flon qui fête ses 10 ans.
Oui, chou-fleur, rampons, céleri, fenouil, épinards, brocolis, poivrons ou encore bouquets de persil. Voici les différents légumes qui composent le panier de l'association Les Jardins du Flon. Ce soir, c'est Fabienne Schantz, coordinatrice à l'association, qui nous en parlera un peu plus.
Eh bien, c'est magnifique. Premier sujet à découvrir dans notre rubrique sociétale lausannoise. On passera ensuite à 18h20 environ à la Rose des Vents. Ce sera avec toi, Daniel, et nous allons parler de l'Indian Association of Lausanne.
Oui, effectivement. Enfin, il s'agit en fait d'une association qui sert de forum, une plateforme pour la diaspora indienne et rapprocher également les Suisses et les Indiens. Et ce sera également l'occasion en fait d'aller à la rencontre de Monsieur Kalyan, qui est en Suisse depuis de très nombreuses années, qui nous racontera son parcours à l'EPFL et des interactions de l'IAL et des membres de l'EPFL.
Voilà, et puis c'est le début d'une série, hein, puisque la semaine prochaine, on continue à parler de l'Inde.
Absolument, avec voilà. Les jeunes de Yuva.
Voilà, c'est une suite. Le premier épisode, c'est ce soir dans le Grand Direct. Et puis, pour conclure cette émission, Cultiver Lausanne à 7h20, ce sera avec toi, Linda. Nous allons parler histoire avec un monsieur bien calé en la matière, puisqu'il il est notamment responsable du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque universitaire de Lausanne.
En tout cas, il l'a été. Olivier Pavillon est historien et écrivain. Et puis, ce soir, il nous parlera de quelques figures suisses qui ont été impliquées dans le trafic d'esclaves.
Oui. Oui. Petit sujet léger pour la culture.
Oui, tout à fait, pour finir.
Oui, pour finir en beauté. Merci Linda, ce sera tout à l'heure à 7h20. Les 10 ans de l'Association des Jardins du Flon, l'Indian Association of Lausanne et rencontre avec l'auteur Olivier Pavillon. C'est le programme de ce grand direct à écouter comme chaque semaine sur radio.django.fm et en DAB grâce à la Fabrique. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Notre première rubrique Vivre à Lausanne, c'est avec toi Ségolène. Et tu nous emmènes dans un jardin, plus précisément dans le Jardin du Flon.
Tout à fait Fabien. Donc les Jardins du Flon, c'est une association créée il y a 10 ans par des cultivateurs de la région vaudoise afin de remettre au jour, si je puis dire, l'idée d'agriculture contractuelle de proximité. Souveraineté alimentaire, circuit court, saisonnalité, solidarité sont les maîtres mots qui guident l'action de cette association.
Oui, et puis logiquement, j'imagine que les Jardins du Flon sont avant tout une structure à taille humaine, hein, puisqu'on peut le constater, sans intermédiaire entre les cultivateurs et les consommateurs, qui permet une rémunération au juste prix, et ça, on va en parler tout à l'heure avec notre invité, ce qui permettra évidemment une revalorisation d'un savoir-faire local. Pour en parler ce soir, justement, notre invité, on l'accueille, elle est avec nous ici en direct de Pôle Sud, dans notre studio, Fabienne Schantz. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes la coordinatrice au Jardin du Flon. Première question, peut-être expliquez-nous en quelques mots les origines de votre association.
Alors, les origines, ouais, ça remonte déjà à 10 ans où c'était quelques citoyens lausannois qui se sont dit on en a marre de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes, comment c'est cultivé ou de devoir aller dans les supermarchés. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu sortir de ce circuit et puis aller à la rencontre de 2-3 producteurs qui seraient en fait motivés à se lancer dans cette aventure qui dure maintenant depuis 10 ans. Donc ils ont trouvé 2 productrices même et un producteur qui vivent à Apple et à Colombier-sur-Morge. Ils cultivent là-bas et ils leur ont demandé s'ils étaient motivés à créer une association qui, au départ, l'idée, c'était de partir avec 70 membres. Parce qu'après, il fallait aussi déjà les trouver, parce qu'il faut...
Oui, mais 70, ni plus ni moins, hein, c'est 70.
Oui, une septantaine. Voilà. Mais en fait, c'est qu'il fallait déjà planter en fait les produits avant d'être sûr. Il y avait quand même un petit risque avant d'être sûr qu'il y aurait vraiment 70 Lausannois qui allaient prendre un panier. Et puis en fait, on était une des premières associations sur Lausanne, donc ça a vite pris de l'ampleur.
Vous êtes, l'association s'est inspirée de structures déjà existantes, comme par exemple les jardins de Cocagne à Genève.
Ou... Mm-hmm, ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait à l'époque les jardins potagers sur Lausanne. Donc c'était l'idée un peu de s'inspirer des jardins de Cocagne ou d'autres structures qui existaient déjà aussi ailleurs en Europe. Mm-hmm. Mais en faisant une petite chose en plus, c'était là au Jardin du Flon, c'est le côté convivial où les gens viennent chercher leurs paniers. Les paniers ne sont pas déposés dans un lieu fixe.
Alors expliquez-nous, donc, le concept, hein, c'est des paniers avec des fruits et des légumes dedans.
Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits de saison qui viennent directement de chez les producteurs. Alors, il y a des fois des gens qui disent « Ah, mais je ne peux pas choisir ce qu'il y a dans mon panier. » C'est vraiment les producteurs qui font en fonction de ce qui pousse. Et en même temps, c'est assez intéressant d'avoir un peu la surprise de semaine en semaine, d'avoir un panier varié et puis d'avoir peut-être des produits qu'on ne mangerait pas d'habitude, de découvrir, de s'échanger des recettes.
En fonction de Dame Nature, évidemment.
Mm-hmm. Pour être précis, il faut être membre de l'association pour recevoir ou aller chercher son panier, c'est bien ça?
Ah oui, les gens ils s'inscrivent en général pour une année. Ils viennent après chercher leur panier dans une salle au Flon. Mm-hmm. Après, il y a aussi un petit marché, un étalage avec d'autres produits transformés où on peut aussi acheter du fromage.
Et ça, c'est ouvert à tout le monde.
Ouais, effectivement. Et n'importe qui, en fait, qui passe peut aussi faire ponctuellement un panier à l'essai pour voir si ça lui plaît ou voir en quoi consiste ce panier.
Je sais que l'association lutte justement pour rémunérer au juste prix les agriculteurs. Mais au niveau du prix du panier, est-ce que vous savez si c'est un peu moins cher ou égal?
On avait fait une fois des comparatifs avec CoopMigros. Ah, ouais. Bon, je ne sais pas si on peut citer
Lidl, Aldi.
Alors, c'est équivalent, même parfois c'est moins cher. Puis c'est surtout que c'est des produits de bonne qualité et frais qui sont cueillis l'après-midi même.
Bon, je vais vous poser la question qui tue peut-être un petit peu. Pourquoi est-ce que du coup les paniers n'ont pas plus de succès que ça? Pourquoi tout le monde ne se rue pas chercher vos paniers?
Bonne question.
C'est moins cher, c'est plus bon, c'est plus de proximité.
Parce que peut-être qu'il y a la petite contrainte de devoir cuisiner ses légumes, ou peut-être que les gens, c'est peut-être le mode de vie ou le rythme de vie des fois qui fait qu'on préfère
faire ses courses
au moment où d'un coup on se dit peut-être qu'il faut au moins une petite organisation pour se dire je vais aller chercher mon panier.
Justement, au niveau du financement des infrastructures, des agriculteurs, j'ai vu sur votre site internet que par exemple, il y a quelques années, il y avait eu de grandes intempéries un été avec de la grêle, qui avait détruit un tunnel. Dans une serre où poussait je ne sais plus quel légume, et puis donc ça a engendré des grands coûts.
Ouais.
Là, comment ça se passe au niveau de l'association? Parce que vous n'avez pas énormément de moyens non plus pour investir dans des infrastructures.
En fait, derrière le mot barbare d'agriculture contractuelle de proximité, c'est bien en fait ce contrat qui relie le consommateur et l'agriculteur. Dont l'idée, c'est qu'il y ait une sorte de responsabilité solidaire. Si par exemple, une mauvaise récolte justement des pommes qui sont abîmées par la grêle, les gens ils vont assumer qu'il y aura peut-être moins de pommes dans le panier cette année-là, mais c'est vrai que ça arrive souvent assez rarement, et puis on a toujours un panier bien varié.
Donc financièrement...
Mais ça permet aussi, comme les gens ils payent leur panier en avance, ça permet d'avoir une petite trésorerie qui dit, cette année, par exemple, on a prêté à une agricultrice pour qu'elle achète une chambre froide qui lui a coûté 8000 francs. Et du coup, elle a emprunté ça à l'association, puis elle nous remboursera sans intérêt. C'est aussi ça l'idée de cette solidarité.
Les Jardins du Flon mettent en avant l'idée de souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et quelles sont les valeurs qui sont sous-entendues derrière ce terme de souveraineté alimentaire?
La souveraineté alimentaire, c'est un concept qui a été dont a parlé pour la première fois la Via Campesina, en fait, qui regroupe, qui est un mouvement de paysans sans terre qui est né dans, je crois, en 97, paysans sans terre du Brésil. Puis en fait, ça veut simplement dire en fait, le droit de chaque peuple ou de chaque citoyen d'avoir un impact sur les politiques agricoles, puis que ce ne soit pas seulement décidé par des lobbies économiques ou... etc. Donc ça implique, oui, un prix équitable pour les producteurs, qu'on favorise aussi la consommation locale, qu'on favorise aussi les producteurs par filière, qu'il y ait un contrôle de par les producteurs, que ce soit de la culture jusqu'à la commercialisation, qu'il y ait toute la chaîne alimentaire, en fait, qui soit
rhétoriquement
non, qui soit relocalisé, en gros.
D'accord,
ouais.
Ah, pardon.
Ouais, je pouvais parler de territoire, mais...
Territorialisé, voilà, on y arrive. Quelle vision, après ces 10 ans de succès, hein, Fabienne Chans, comment ça se passe 10 ans après le lancement de ce beau projet?
Bah, c'est clair qu'il faut toujours un peu se réinventer, parce qu'on a commencé, c'était un peu le boom, tout le monde s'intéressait à ces paniers. Maintenant, il y a aussi d'autres associations qui se sont créées. Ce n'est pas forcément des concurrents, mais ça fait quand même qu'il faut tout le temps aller rechercher des membres, faire de la promotion, trouver un peu qu'est-ce qui... Par exemple, un temps, on n'avait pas de mini-panier, puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes seules qui s'intéressaient, puis qui avaient... qu'un petit panier, c'était trop grand. Alors, on a créé un encore plus petit panier qui marche bien. Donc, ouais, il faut un peu s'adapter. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez fidèles, des gens qui sont là depuis 10 ans, membres de l'association. Après, on aimerait toujours avoir une vingtaine de membres en plus.
Par année.
Qui sont...
Ou 20 ouais, ou, au total.
En général, ouais, ouais. Au total, qui sont toujours difficiles à trouver, effectivement.
Est-ce que la concurrence, enfin, entre guillemets, concurrence entre ces petites structures dans la région lausannoise, est-ce que ça fait augmenter les prix?
Bonne question. Non, je crois pas, parce que ces prix sont quand même indexés. Enfin, les producteurs, ils ont aussi leur liste de prix.
Vous n'avez pas de pression de prix,
non,
en fait?
Non.
D'accord. Et qu'est-ce qui pousse ces agriculteurs, cultivateurs à produire localement et à vendre localement et à ne pas céder à des grands distributeurs?
Moi, je pense que c'est déjà le plaisir de cultiver pour des gens qu'on connaît. Des gens qui revoient toutes les semaines, avec qui on discute, avec qui on a des retours sur « Ah ouais, le panier de cette semaine, il était magnifique ». Enfin, je pense que c'est aussi motivant que de juste être sur son tracteur et de ne pas savoir pour qui on cultive. C'est une certaine sécurité aussi, parce qu'ils savent que voilà, on a 200 membres qui vont nous acheter ces produits sur une année. On cultive aussi en conséquence, donc il y a moins de gaspillage, il n'y a pas de pression sur les prix. Donc je pense que c'est ça, essentiellement. Il y a quand même plus d'autonomie. Après, il y a aussi les productrices, des fois, elles s'amusent à cultiver des framboises jaunes ou des choux-fleurs oranges. Enfin, il y a peut-être aussi plus de liberté dans le choix de ce qu'elles cultivent.
Est-ce qu'il y a un certain militantisme qui se cache derrière la motivation de ces producteurs, cultivateurs?
Chez les producteurs.
Oui, est-ce que vous ressentez ça ou alors pas du tout?
Moi, je pense que ça dépend toujours lesquels.
Mais dans votre association, ils sont vraiment justement engagés?
Ouais, je pense qu'il y a quand même une forte volonté de défendre une agriculture qui permette aux paysans de vivre, simplement. Ouais. Puis de maintenir des associations à taille humaine, des exploitations familiales.
Fabienne Chans, on l'a dit à l'instant, hein, vous fêtez les 10 ans de l'association Les Jardins du Flon. Vous avez un événement, hein, c'est bien aussi pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Le 4 novembre, c'est la semaine prochaine. Et ça se passe ici, à Pôle Sud. Expliquez-nous.
Oui, l'idée, c'était un peu de sortir de...
Des jardins.
Des traditionnelles livraisons des paniers où les gens se font que de se croiser. Parce que l'idée, c'est aussi d'un peu de créer du lien et que les gens se rencontrent différemment. Donc, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se créer aussi à partir des fêtes. Ça redynamise aussi un peu les liens, les discussions, les réflexions. Donc, ouais.
Donc c'est une grande rencontre avec évidemment les membres de l'association, mm-hmm. mais également
ouais,
les
producteurs. Oui, c'est ouvert vraiment à tout public. On a fait un petit programme.
Donc il y a la projection d'un documentaire mm-hmm. qui est...
C'est un documentaire qui s'appelle En quête de sens, qui était sorti avant le documentaire Demain, que beaucoup de gens connaissent, mm-hmm. qui est un peu dans la même idée, où c'est deux amis d'enfance qui font un road trip où ils vont à la rencontre d'activistes, de philosophes qui œuvrent ou qui sont engagés en fait dans la transition écologique sous différentes formes. Donc forcément, c'est des valeurs qui se rapportent aux nôtres.
Il y aura également un concert, si je ne m'abuse.
Oui, on a la chance d'avoir Alexandre Cellier qui était disponible ce jour-là et qui viendra donner un concert... improvisé. Alors, Alexandre Cellier, c'est un multi-instrumentiste et compositeur suisse que beaucoup de gens connaissent, qui fait aussi des instruments avec des légumes. Donc, on s'est dit que c'était assez dans le thème. Ouais.
Et vous les mangez après les légumes ?
Alors, peut-être qu'on va en faire une grande soupe, vu qu'il y aura une soupe aussi.
Donc, on récapitule, votre soirée le 4 novembre, ce sera avec la projection d'un film, la prestation d'Alexandre Cellier et la soupe dinatoire.
Voilà, la soupe dinatoire et un DJ pour terminer la soirée à 22h30. Ouais.
Voilà, donc tout ça se passera la semaine prochaine, le 4 novembre, ici même, à Pôle Sud. Merci beaucoup, Fabienne Chans.
Merci
Fabienne.
Vous êtes coordinatrice au Jardin du Flon, on le rappelle. Hein. Merci beaucoup d'être venue nous parler ce soir de votre association, puisqu'on a fait un bref tour d'horizon de l'historique des 10 ans, et justement parler de l'événement de la semaine prochaine qui fête ses 10 ans. On le redit encore une dernière fois ici à Pôle Sud le 4 novembre pour fêter votre anniversaire. Vous êtes toutes et tous bien sûr les bienvenus. Vous n'êtes pas obligés hein, de vous inscrire pour l'association, mais même passer un bon moment. Ça fait toujours du bien. Et puis, si vous voulez voir ces paniers et profiter de ces paniers pour l'année prochaine, bien sûr, vous êtes les bienvenus. J'ai bien résumé le propos ?
Parfait.
C'est parfait. Merci beaucoup.
Merci.
Les 10 ans de l'association des Jardins du Flon, un sujet à réécouter sur notre site www.django.fm. On vous a mis également quelques liens grâce à Ségolène. Merci beaucoup d'ailleurs, Ségolène. Pour ce
Merci
sujet.
À tous. Merci, Fabien.
One.
Oui, un petit peu de reggae sur Radio Django avec One Love, cette chanson signée Bob Marley. 18h20 sur Radio Django et Radio La Fabrique. On passe à La Rose des Vents.
Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, on ouvre un premier chapitre sur une série sur l'Inde, 4 chroniques d'octobre à novembre pour découvrir la communauté indienne du canton de Vaud. Un premier volet ce soir sera l'occasion de découvrir l'Indian Association of Lausanne, officiellement lancée en 1995. Daniel, avant de découvrir cette association, quelques mots sur l'Inde peut-être ?
Alors l'Inde, c'est un pays du sud de l'Asie, considéré comme l'un des foyers de civilisation parmi les plus anciens du monde. Le sous-continent indien a abrité de vastes empires et l'Inde, depuis l'Antiquité, reste incontournable sur les routes commerciales. Le pays a été graduellement annexé par la Compagnie anglaise des Indes avant de passer sous le contrôle du Royaume-Uni au XIXe siècle. L'Inde devient indépendante en 1947. Depuis 1950, le pays est une république parlementaire fédérale. Sa capitale est New Delhi. Deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine, l'Inde se caractérise par sa diversité linguistique, religieuse et ses disparités économiques. Malgré des phénomènes récurrents de pauvreté, d'analphabétisme et de corruption, l'Inde, en 2015, a été classée 9e puissance économique mondiale.
Et l'Inde reste un partenaire privilégié pour la Suisse aussi ?
Alors oui, la Suisse entretient des relations étroites et dynamiques avec l'Inde, qui se traduisent par de nombreux traités et accords, ainsi que par de fréquentes visites diplomatiques de haut niveau. Ce partenariat multiforme inclut une coopération dans divers domaines tels que l'économie, la science, l'éducation et la culture.
Et puis, est-ce que la communauté indienne installée dans la région lausannoise est importante ?
Je n'ai pas de chiffres précis pour le canton de Vaud. Cependant, environ 13 500 personnes d'origine indienne vivent sur le territoire suisse. Une communauté essentiellement composée d'expatriés, de chercheurs et d'étudiants.
Alors, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Kupuswamy. Excusez-moi, j'écorche complètement. Dites-nous votre nom, ça sera beaucoup plus simple.
Kalyanasundaram. Kupuswamy Kalyanasundaram.
Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. En même temps, c'est un petit peu votre langue.
Merci.
Vous êtes donc ancien adjoint scientifique du laboratoire de phototonique et d'interface de l'EPFL, hein, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et cofondateur de l'IAL, l'Indian Association of Lausanne.
Kalyan, après un bachelor et un master en chimie à l'université de Madras, vous quittez l'Inde pour poursuivre vos études en chimie physique aux États-Unis et vous faites un détour ensuite par le Royaume-Uni pour faire un post-doctorat pour ensuite gagner les rives du Léman. Kalyan, avant de découvrir votre parcours en Suisse et l'histoire de l'IAL, nous tenions à vous faire écouter un extrait de L'homme qui défiait l'infini, un film de Matt Brown sorti en 2016 et qui raconte la vie de Srinivasa Ramanujan, un jeune Indien invité à la veille de la Première Guerre mondiale en Angleterre par un professeur de Cambridge pour ses théories mathématiques. Un génie qui a peiné à se faire reconnaître par la communauté des chercheurs.
Ah, je suis bien content de vous voir. Racine carrée de 58 639, allô ?
242.
242, virgule quoi ?
Virgule 154 909.
Un jeu d'enfant, testez-moi. 21. Ah ! Dans les dents ! Les combinatoires, ma spécialité. Un vulgaire lancé de dés. Vous deux, alors, vous ne manquez pas d'aplomb. Vous échouez sur les nombres premiers et du jour au lendemain, vous voulez vaincre les partitions. C'est infaisable, croyez-moi. Encore moins par quelqu'un comme vous.
J'y arriverai, vous verrez.
Mon Dieu. Il a réussi. Il a vraiment réussi.
Maintenant, il doit devenir membre.
Oh, soyez réaliste, Hardy, c'est voué à l'échec.
S'il devenait membre de la Royal Society.
De la Royal Society. Il est indien. Trinity l'a rejeté.
Je souhaite avoir la possibilité de plaider sa cause. Qu'il soit jugé sur ses mérites. Finalement, une seule question s'est imposée. De quel droit doutons-nous de Ramanujan ?
100 ans après l'histoire de Ramanujan, quel souvenir, Kalyan, gardez-vous
de l'accueil réservé aux étudiants étrangers en Angleterre.
Pour moi, si vous parlez de l'interaction avec la communauté scientifique, plus ou moins pour moi, cette relation était vraiment cordiale, chaleureuse, avec tout le monde que je rencontrais. Oui.
Est-ce que vous avez été confronté parfois à un manque de reconnaissance en tant que jeune étudiant arrivant de Madras?
Non, personnellement, mais il faut rappeler que quand on était sous le régime colonial de l'Inde pour plus de temps, puis il y a, après l'indépendance, il y a beaucoup dans le pays du sud africain, il y a beaucoup d'Indiens qui habitaient là, qui ont tout déménagé vers l'Angleterre. Et maintenant, l'Angleterre, on compte plus d'un million personnes d'origine inde qui vivraient là-bas. Par cela, si vous parlez d'interaction avec le grand public, des fois, tout passe mieux, des fois, c'est beaucoup à voir. Mais entre les interactions et les scientifiques, ça a toujours été bon.
Finalement, c'est relié au statut. Kalyan, qu'est-ce qui vous a conduit à venir vous installer en Suisse?
Pour moi, c'est un cas personnel. Parce que moi, j'ai fait mes études dans les États-Unis. Pendant ce temps, il y avait un Allemand, un professeur qui est venu comme professeur invité pour une année, dans le même temps, dans le même labo. On a travaillé ensemble. Puis, il a retourné, m'a continué mon travail de doctorat. Puis, quelques années plus tard, il est retourné à Berlin. Il a décidé de déménager à Lausanne, à IPFL. Il est venu ici comme professeur de chimie pour avoir son groupe de recherche dans le domaine de chimie, dans lequel on a déjà fait la collaboration. Puis moi, j'ai rencontré lui une fois en pays du Galles dans son congrès. Puis il m'a demandé si vous intéressez moi aussi venir en Suisse à Lausanne pour continuer la collaboration en durée longue. À l'époque, je passais chez, comme un stagiaire, où je dois aller après la stage postdoctoral, puis j'ai décidé pourquoi pas. Mais je dois dire aussi qu'à l'époque de la mi-70, IPFL était dans une forte croissance.
Une forte croissance.
Il y avait le gouvernement suisse, il a mis le soutien énorme pour le développement. Puis on a beaucoup d'argent pour avoir toute l'instrumentation scientifique qui donne mon plaisir parce que je peux faire. Pour mon domaine de recherche, ça coûtait très cher. Je vois que c'est facile à faire ici en Suisse.
Tout à fait. Mais c'est grâce donc à ce professeur que vous avez rencontré au Pays de Galles que vous êtes rentré à l'EPFL. Mais est-ce qu'en Inde, vous aviez déjà entendu parler de l'EPFL dans les années 70?
Très petit peu. J'attends de la Zurich.
Le PFZ. Zurich. Vous participez en 1995 à la création de l'Indian Association of Lausanne. Qu'est-ce qui vous a conduit, en fait, à participer à ce projet?
En 1970, quand je suis venu ici en Suisse, la communauté indienne était vraiment petite, moins de 10.
Moins de 10 personnes?
Moins de 10 personnes. À moitié dans la IPF, à la UNIL. Il y a quelqu'un qui travaille pour l'université, pour l'industrie à Lausanne, comme m'appelait Maurice. Puis, à l'époque, on pouvait inviter chacun dans la maison pour avoir l'interaction sociale. Mais de temps en temps, le nombre de grandir peut arriver plus de 100 une fois. Puis à la fin, c'est difficile pour inviter tout le monde. On a décidé de louer la salle centre de Blois-Cyr de Blacheret, par exemple, pour avoir la réunion collective.
Tout à fait.
Mais après, on a commencé à voir les gens qui habitent dans l'arc lémanique, depuis la Nyon jusqu'à Vevey-Montrouq.
Donc des personnes d'origine indienne, on est bien d'accord.
Il y a toujours qui vont se venir ici. Puis moi, mon ami, il décidait que le temps arrivait pour avoir une association indienne qui permet n'importe qui, d'origine indienne ou même la Suisse, qui est intéressé dans la culture indienne, pour venir pour participer dans notre réunion.
Quelles sont les particularités indiennes que vous aviez envie de faire découvrir peut-être au public suisse?
Non, parce que le mode de vie In Indians, plus différent par rapport au mode de vie suisse. Puis, je ne pas vraiment manque la chose, mais quand même, chaque fois on a des réunions
entre indiens,
on a la possibilité de parler la langue locale, mais aussi avoir l'échange, on peut célébrer la fête. National, régional.
Entre autres. Mais comment est-ce que vous faisiez entre Indiens pour pouvoir parler une langue nationale en sachant qu'il y a une multitude de langues en Inde?
Pour moi qui viens dans le sud, ça pose des problèmes parce que la langue nationale, hindi, moi j'ai appris tepou quand j'étais dans l'école. Pour cela, je suis arrivé à la fin par parler en anglais, mais par la plupart des gens, parler en hindi, je pose pas.
Kalyan, l'Indian Association of Lausanne existe aujourd'hui depuis 20 ans. Comment est-ce qu'elle a évolué, votre association?
Maintenant, on a beaucoup de monde. Moi aussi, on a des Internet. La communication aussi s'est élargie. À l'époque, tout le monde même intéressé par voir le cinéma indien. C'est difficile à voir. Puis maintenant, tout le monde voit sur l'Internet. Par cela, moi, j'ai besoin par interaction jour à jour. Mais quand même, il y a toujours intérêt pour avoir l'interaction. Mais aussi, le nombre est aussi plus grand. Et maintenant, par rapport qu'il était à 20 ans.
Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes de la deuxième génération s'intéressent au programme de l'IAL?
Oui, certainement, parce que quand on parle de la... enfants indiens de deuxième génération. Ce sont les gens qui grandissent avec deux cultures un peu plus différentes, qui font le bon mélange. Mais aussi, pour nous aussi, comme les parents, pour avoir la deuxième génération,
mais pour vous, ça reste
contact avec la culture indienne.
Oui, ça reste important d'entretenir ce contact avec les origines.
Exactement.
Les Indiens, plus grande diaspora au monde, selon un rapport de l'ONU de 2016, 16 millions d'Indiens donc vivent en dehors de l'Inde. Une autre étude réalisée par le pôle de recherche national à Neuchâtel, On the Move, montre que la plupart des étrangers installés en Suisse le sont pour des raisons professionnelles et que plus de deux tiers d'entre eux se disent satisfaits de leur choix. Est-ce que la Suisse est finalement un pays d'immigration heureuse ?
Oui, quand on parle des États-Unis ou Angleterre ou Australie, on a des options pour l'argent immigré directement. Mais en Suisse, il y a seulement l'argent. Le premier contact, c'est l'employeur qui doit trouver le permis pour venir ici. Pour cela, la plupart des cas, les gens qui viennent de l'Inde, qui sont les formations universitaires, et aussi l'expérience professionnelle dans le domaine informatique ou d'autres. Parce que la plupart des gens d'origine indienne qui sont ici, qui sont à peu près, entre guillemets, professionnels, qui viennent directement. On n'a pas le système comme dans l'Angleterre, aux États-Unis, le parrainage, qui peut sponsorer la sœur et frère pour venir ici.
Mais vous êtes une des rares communautés en fait, composé presque essentiellement d'expatriés et de chercheurs.
Ils sont venus directement pour prendre l'emploi. Mais la première démarche était prise par l'employeur suisse. Plus ou moins, c'est cela le cas.
Si l'Inde n'a pas beaucoup de ressources naturelles, elle a beaucoup de cerveaux, disait un entrepreneur québécois. Chaque année, 2 millions de diplômés sortent des universités indiennes et le pays compte 4 millions de scientifiques. En quoi la fuite des cerveaux, qui a débuté en fait dans les années 60, s'est transformée aujourd'hui en gain des cerveaux?
Puis, maintenant, dans les États-Unis, maintenant, on parle du domaine de l'informatique. Il y a trop nombre de personnes d'Irlande qui sont là dans les États-Unis. Mais dans d'autres domaines...
D'ailleurs, Barack Obama s'était élevé contre ce phénomène.
Mais là, maintenant, il y a beaucoup qui... rentre parce que la vie, le style économique, c'est vraiment grandi en Inde.
Maintenant,
si on a de l'argent, on peut vivre comme ici.
Dans quelle mesure est-ce que vous pensez justement que ce brain gain a permis de développer l'Inde ces 10 dernières années? Est-ce que ça a eu un impact sur le développement de l'économie? Le fait que ces jeunes chercheurs et ces étudiants retournent au pays, enfin, ils sont diplômés quand ils rentrent.
Oui, maintenant, comme je dis, là, on a des moyens à disposition en Inde, c'est énorme. La croissance économique, c'est aussi élevé. Par cela, il n'y a pas de changement abrupt pour les gens qui déménagent depuis ici pour continuer la chose qu'ils peuvent faire. Peut-être qu'il y a moins petite période de transition, mais autrement, la transition, ça va compliquer maintenant. Je peux aller.
En tant que chercheur, dans quelle mesure est-ce que vos recherches ont participé justement au développement de l'Inde par le biais du CODEV, qui est le Centre de coopération et de développement de l'EPFL?
L'EPFL, moi, j'ai réagi chez moi-même à aller plus souvent en Inde. Quand j'ai travaillé au printemps, c'est difficile pour aller. C'était seulement pas 2-3 semaines par année. Et maintenant, la dernière fois, c'était la 2 fois, chaque fois, pour 5-6 semaines. Je donne le cours dans 10 ans d'université, puis j'ai essayé de garder contact.
Vous avez la chance de pouvoir continuer à travailler en tant que retraité. Le 9 août, en Inde, des scientifiques sont descendus dans la rue pour protester. Que s'est-il passé au juste? Qu'est-ce qui a mis en émoi cette communauté des chercheurs indiens? Des scientifiques se sont élevés en Inde le 9 août et il semblerait qu'ils protestaient contre le gouvernement en place qui voulait réduire en fait le budget de la science.
Oui, le gouvernement essaie de ne pas vraiment réduire, il essaie de différencier. On a assez un système de l'université même, la dépense pour les études universitaires. Il faut avoir le système de l'université même, retrouver l'argent. Ça vient à la self-serving, c'est cela l'argent qui ne plaît pas. Parce que le gouvernement, en principe, ça doit mettre plus d'argent pour enseignement propre.
Pour conclure, qu'est-ce que vous pensez du niveau des études supérieures en Suisse et qu'est-ce qui pourrait faire son attrait pour les jeunes étudiants indiens?
Et maintenant, en Suisse, on a plus d'université haut de gamme qui se trouve dans le premier rang des 20-30 ans. Mais là aussi, maintenant, le master qui est donné en anglais, qui permet déjà 200 étudiants, même à Lausanne, qui fait le master doctorat en Inde, ici à l'IPFL. Déjà, je vois comme plus de moitié qui est déjà retourné en Inde. Comme ça, maintenant, l'échange
scientifique. Mais c'est devenu transversal.
Qui passe beaucoup mieux dans une échelle plus grande par rapport à 20 ans.
Merci beaucoup, Kaliane. Merci beaucoup d'être venue ce soir nous en parler, ce soir de votre thématique que vous connaissez, notamment de votre association Indian Association of Lausanne. Merci beaucoup de nous avoir apporté toutes vos connaissances. Plein succès pour vous.
Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici.
Daniel, on l'a compris, hein, l'Inde ne cessera jamais de nous étonner. C'est une terre de contraste.
En effet, Fabien, si l'Inde rurale donne une image sombre de privation et de pauvreté, d'après le quotidien de Hindu, dans son éditorial du 7 juillet 2017, l'Inde, c'est aussi...
C'est l'effervescence, la construction, la grosseur de la population et sa pauvreté était un désavantage. Avec l'informatisation et toute la nouvelle technologie, ce n'est plus un désavantage, c'est une force d'amener des gens à produire. Et sur 1,3 milliard, il y a beaucoup de têtes très, très intelligentes qui sortent des rangs, qui viennent développer des choses exceptionnelles.
Voilà pour ce premier volet de 4 consacré à l'Inde dans la Rose des Vents. Merci beaucoup à Daniel pour cette série de sujets. La semaine prochaine, nous recevrons 2 étudiants de l'EPFL actifs au sein de Yuva, l'association des étudiants indiens de Lausanne. Et si l'Inde vous interpelle et vous intéresse, ne ratez pas la Fête des Lumières organisée par cette association le samedi 28 octobre à l'EPFL. C'est ce samedi. Vous pouvez déjà acheter vos billets en ligne sur www.yuva.com. On vous met les liens sur notre site django.fm.
Radio Django, culture.
18h40, on passe à Cultiver Lausanne. Et ce soir, justement, dans Cultiver Lausanne, on parle histoire. L'histoire des colonies, de la traite négrière et de l'esclavage. Un rapport qui semble un petit peu distant à la Suisse et à Lausanne, Linda.
Oui, Fabien, on serait tenté de croire que la Suisse, qui n'a jamais possédé de colonies, a les mains toutes propres s'agissant de cette période sombre de l'histoire. Alors, c'est peut-être le cas pour l'État suisse. En revanche, certains de ses citoyens ont été mêlés à cette période. Notre invité va nous raconter en quelques mots le rôle que des citoyens suisses ont pu jouer dans le commerce négrier et dans l'esclavage entre le XVIIe et le XIXe siècle, avec un focus sur un récit en particulier.
Et cet invité ce soir, c'est Olivier Pavillon. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous êtes journaliste, historien de formation. Vous avez dirigé également le musée historique de Lausanne durant 15 années. Vous avez également été responsable du cabinet des manuscrits de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Vous êtes également auteur à vos heures et vous avez rédigé plusieurs ouvrages sur des familles suisses mêlées au trafic d'esclaves. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce sujet, Olivier Pavillon ?
Eh bien, c'est que, comme on vient de le dire, c'est un sujet qui n'est pas tellement présent dans l'histoire suisse. Bon, disons que maintenant, depuis une quinzaine d'années, on en sait un peu plus. Hein, mais il y a encore une quinzaine d'années, c'est un sujet complètement tabou, on n'en parlait pas. Et alors j'avais, par hasard, lu, il y a peut-être, je ne sais pas, 25 ans, dans une histoire sur la banque en Suisse, on parlait à un endroit de bateaux qui partaient de Marseille pour faire la traite négrière et qui portaient des titres tels que « Ville de Lausanne » et « Pays de Vaud ». Je disais, tiens, bizarre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors c'était resté dans mes mémoires, et puis bon, ma vie professionnelle ne m'a pas tellement permis de faire de la recherche historique. Et à la retraite, je me suis dit, tiens, je vais essayer de creuser.
Donc c'est une retraite qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur un côté historique qui vous a pas forcément plus branché depuis le début.
C'est-à-dire que oui, je dois dire que si on est un peu sensible aux injustices du monde, on est quand même aussi sensible à ce qui s'est passé comme injustice dans l'histoire. Et diable, si c'en est une, ça.
Et justement, Olivier Pavillon, à travers vos différents ouvrages, on apprend que plusieurs familles suisses, voire suisses romandes, ont été actives dans le trafic négrier. Qui sont ces familles ?
Alors, d'abord, je veux dire que il existe en fait maintenant depuis à peu près 8-9 ans un petit bouquin qui s'appelle « La Suisse et l'esclavage » qui est apparu aux éditions Antipode, publié par trois chercheurs lausannois et genevois, chercheurs et chercheuses, qui est excellent. Hein, donc on peut là trouver pas mal de choses. Alors, quels sont ces gens ? Il y a de tout. Il y a des marchands, il y a des commerçants, il y a des industriels qui fabriquent par exemple des indiennes. Les indiennes, c'était des tissus de coton, de couleur, qui était vendu en Suisse certainement aussi, mais surtout dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire en Afrique. Et ça servait souvent d'échange contre des esclaves. Mmh. Donc il y a toutes sortes d'industriels, en particulier dans le canton de Neuchâtel, mais dans le canton de Glaris aussi, qui se sont établis industriels d'indiennes, et puis qui cherchaient des débouchés. Alors ils ont établi des comptoirs, par exemple à Nantes, ou à Marseille, ou à Lille, ou à Bordeaux, là d'où partaient justement les navires négriers, avec les cargaisons qu'ils allaient échanger contre des esclaves. Mais il y avait également des mercenaires qui ont été soldats ou officiers dans des troupes coloniales chargées de maintenir l'ordre dans les territoires conquis. Il y avait des pasteurs et puis il y avait des aventuriers. Mmh. Voilà.
Votre prochain ouvrage à paraître est intitulé « Des Suisses au cœur de la traite négrière, de Marseille à l'Île-de-France, d'Amsterdam en Guyane, 1770-1840 ». Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage à paraître ? De quoi est-ce qu'il parle ?
Alors bon, le champ est effectivement chronologiquement assez vaste parce qu'on a eu la chance de retrouver en fait la correspondance qui est aujourd'hui conservée aux archives cantonales vaudoises d'un membre d'une famille qui s'appelle Larguier des Bancel, qui est d'origine huguenote. On a d'ailleurs toute l'histoire de la période huguenote, quand ils sont venus à Lausanne. À Lausanne, le type a fait quelques actes frauduleux, il a dû fuir. Puis c'est à partir de là qu'il part, s'appelle Pierre-Frédéric Larguier des Bancel, il part à l'île Maurice et on a toute sa correspondance et également de ses descendants qui étaient à l'île Maurice jusque vers 1840. Donc on a à peu près un siècle de leur présence à l'île Maurice où ils étaient trafiquants et également planteurs.
L'île Maurice qui à l'époque s'appelait Île-de-France, hein, d'où la mention Île-de-France
exactement,
dans le titre.
Parce que c'est une île qui d'abord a été colonisée par la France, d'abord par les Hollandais, puis par les Français et enfin par les Anglais.
Et comment est-ce qu'il vous a été possible de réunir tous ces documents historiques qui ont été nécessaires à cet ouvrage ?
Alors, c'est un peu le problème pour ce genre de recherche, parce qu'en fait, vous ne trouvez rien dans les archives officielles de la Confédération suisse ou des cantons. Puisque, à part le canton de Berne, qui au XVIIIe siècle avait des actions, la Compagnie orientale des Indes, d'une manière générale, les pouvoirs publics n'ont pas participé à la colonisation, ça, c'est clair. Alors les individus, dans la mesure où leur correspondance ou bien leurs souvenirs ont été conservés, ben voilà, seulement il faut les trouver parce que souvent leur correspondance qui passait par mer était victime des naufrages, des pirates, ou bien alors ensuite les familles conservant ça dans des greniers se sont dit un jour ouais, c'est du vieux papier, ça sert à rien. Donc en fait on a malheureusement peu de choses et heureusement quelques personnes ont eu sauver des correspondances, des souvenirs. C'est ça que j'ai utilisé.
En particulier pour la famille des Bancel. Hein.
En particulier pour la famille Larguier-Bancel, dont les archives sont aux archives cantonales. Elles ont été données par les deux derniers descendants de cette famille, dont le dernier était un professeur de l'Université de Lausanne. Et puis là, il était un peu sensibilisé quand même aux archives, au rôle des archives. Il a donné ça aux archives, c'est bien. Mais par exemple, pour un autre, qui est Alfred Berthoux, qui est neuchâtelois, dont je parle aussi dans le bouquin, là, c'est par hasard que les archives de la vie moderne à Neuchâtel ont reçu des papiers qui étaient destinés quasiment à la poubelle. Ah oui. Et là aussi, c'est une correspondance d'Alfred Berthoux qui est retourné au Suriname où il possédait des plantages, comme on disait, et des esclaves, et puis qui est là-bas pour les liquider. Pour vendre tout ça. Et alors, il écrit à sa femme à Neuchâtel pour lui expliquer ce qui se passe. Voilà. Les éléments qu'on peut avoir.
Si on en revient à la famille des Bancel qui occupe le premier volet de votre ouvrage, on trouve l'extrait d'une lettre que Pierre-Frédéric Larguier des Bancel, que vous avez évoqué tout à l'heure, écrit à sa mère en 1787, où il est dit « Avant-hier, nous avons obtenu la permission d'aller faire à Madagascar la traite des Noirs, qui, dans le courant de la saison, peut nous donner un gros bénéfice si nous n'éprouvons pas de malheur. » Fin de citation. Donc, en parallèle du commerce de marchandises, il se lance aussi dans ce commerce-là.
Voilà. Donc, tous ces trafiquants n'étaient pas nécessairement des négriers. Ils faisaient le trafic de toutes sortes de produits. Ils allaient, par exemple, acheter des produits en France, à Marseille, et puis ils les revendaient à l'île Maurice ou bien à l'île de France, en l'occurrence, ou bien à La Réunion, voire à Madagascar, ou bien même sur les côtes de l'Inde. Hein. C'était parfois des voyages de nombreux mois. Mais en l'occurrence, ils vont aller à Madagascar et ils vont faire de la traite négrière. Madagascar, c'est assez proche de l'île Maurice. C'est une terre qui fournit beaucoup de riz aux habitants, aux colons de l'île Maurice, mais aussi des esclaves. Encore que la principale source d'esclaves à l'époque dans cette région-là, c'est le Mozambique. Voilà. Mais lui va d'abord trafiquer avec Madagascar. Il trafiquera aussi avec le Mozambique. Alors, l'expédition dont on parle, il en espère beaucoup. Il va même racheter des locaux à Port-Louis, à l'île Maurice, pour stocker, entre guillemets, les esclaves qu'il va acheter à Madagascar. En réalité, tout va très mal se passer. Il va faire naufrage, le capitaine va mourir, le bateau va devoir faire escale à La Réunion avant de revenir à l'île Maurice, et en définitive, il reviendra avec très très peu d'esclaves, parce que la plupart se sont révoltés. Et ça, c'est une chose qui se produit très souvent, des révoltes d'esclaves, et là, ça a été une révolte importante.
En particulier sur les navires.
Oui, oui. Alors, ils se révoltaient le plus souvent sur les navires. Il y en a à plusieurs reprises. Des navires ont été pris ensuite en charge par les esclaves révoltés. Parfois, ils savaient à peu près naviguer. D'autres fois, ils ne savaient pas. Et puis, ils naviguaient un petit peu... peu
à vue.
À vue, et puis ça s'est traduit par des catastrophes.
D'ailleurs, petit à petit, les mouvements abolitionnistes gagnent du terrain et parviennent finalement à l'Abolition Bill le 1er août 1833. Il y a une protagoniste de la famille Larguier qui se plaint des esclaves à cette période. Elle dit « Depuis qu'on leur a tout accordé, on peut bien dire que mieux ils sont traités, moins ils valent. Je voudrais bien qu'on envoyât dans les colonies quelques-uns de vos philanthropes négrophiles et leur donner une centaine de noirs et de la terre pour tout revenu. » Fin de citation.
Oui.
C'est une période décevante pour la famille Larguier.
Ben, disons que c'est assez typique de la réaction des colons. Hein. Oui. Les colons, en fait, ils se rendent bien compte qu'en 1833, la période de l'esclavage se termine. Ce qu'ils essayent, c'est d'obtenir en fait, des indemnités pour leurs esclaves libérés de la part du gouvernement anglais. Ça va être le cas. Hein. Ça va être le cas. C'est un des descendants de ces Larguier de l'île Maurice qui était préfet à Nyon, ici. Le père de ceux qui vont devenir par la suite professeurs à l'Université de Lausanne, qui va devoir, en fait, il est l'héritier, il hérite des terres, il hérite des esclaves, et c'est lui qui va devoir liquider les terres et les derniers esclaves. Mais ce qu'il faut dire précédemment à propos de Pierre Frédéric, c'est qu'il avait un fils, il l'avait fait venir sur place, et ce fils, en fait, va, au moment de la première abolition de l'esclavage, au moment où la Révolution française supprime l'esclavage,
par les
1791 ou 92, je ne sais plus exactement, eh bien lui, en fait, il va se mettre à la tête quasiment des jeunes colons de l'île pour repousser les représentants de la Révolution française qui viennent proclamer la abolition de l'esclavage. Il les renvoie purement et simplement en disant « Nous, ici, on va maintenir l'esclavage. » Et en fait, l'esclavage va être maintenu sur l'île Maurice.
Encore
quelques années. Pas mal de temps. Ensuite, les Anglais vont occuper l'île et puis alors, eux vont supprimer, disons, la possibilité d'acheter des esclaves. Mais disons, ceux qui étaient sur l'île sont restés propriétés de leur maître et ne seront libérés que dans les années 1830-35.
Dans l'ouvrage, il est question par endroits de dégringolade financière vertigineuse. On s'en approche. D'ailleurs, ça a un lien très concret avec l'abolition. Enfin, ça signifie aussi la fin d'un certain profit. Mais il y a aussi des cyclones dévastateurs, des épidémies de choléra et une féroce concurrence entre les planteurs.
Oui, parce que disons, il y a beaucoup de Suisses, de Français, enfin d'Européens, de manière générale, qui partent là-bas. Ce sont des aventuriers. Ils espèrent faire fortune. Notre Pierre Frédéric, lui, il a essayé de faire fortune à Lausanne. Il a fait des actes un peu frauduleux. Il a dû partir en vitesse, mais il n'a pas un sou. Il a du tout laissé à Lausanne. Donc, il espère à l'île Maurice faire sa plotte. Alors, au début, ça marche bien, ça monte. Il peut faire des différents commerces, y compris du commerce d'esclaves. Et puis ensuite, ben voilà, il y a des pirates qui s'emparent du bateau, il y a des tempêtes qui font couler des navires, il y a des révoltes d'esclaves, comme on l'a vu il y a un instant, ce qui fait que c'est vraiment en dents de scie. Mais en définitive, les Larguiers ne vont pas tellement faire fortune à l'île Maurice, et à la fin, c'est pas vraiment une fortune considérable qui va en sortir, il faut dire.
Et puis, la lignée se termine plus ou moins avec... les descendants de Pierre Frédéric, j'ai plus tout
Là. Alors Pierre Frédéric, il a en fait un frère à Lausanne qui va devenir préfet de Nyon et qui aura deux enfants, dont les deux d'ailleurs vont être professeurs, l'un de droit et l'autre de je ne sais plus de quoi, à l'université de Lausanne, enfin d'abord à l'académie de Lausanne, c'était pas encore une université, puis ensuite à l'université de Lausanne, mais ils n'auront pas de descendants. Donc, maintenant, la famille Larguier des Bancelles, elle a disparu. Par contre, à Saint-Germain-de-Calberte, dans les Cévennes, il y a encore beaucoup de Larguier qui vivent. Hein. Et moi, j'y suis allé. C'est assez émouvant. J'ai retrouvé beaucoup de traces de mes Larguier là-bas, y compris au moment où on les a forcés à abjurer la foi protestante.
Oui.
C'était impressionnant.
De vos Larguier, vous dites, vous êtes devenu familier avec à force de les étudier.
Ah ben oui, vous étudiez une famille pendant à peu près, je ne sais pas, 4 ans, je suis allé à Marseille, je suis allé dans les Cévennes, je ne suis pas allé à l'île Maurice, mais j'étais en relation avec des historiens de l'île Maurice. Donc finalement, vous venez quand même assez familier de ces gens.
Olivier Pavillon, est-ce que vous avez déjà d'autres sujets en perspective maintenant que la lignée des Bancelles est bouclée ?
Non, pas pour l'instant. Je me repose. Peut-être que ça surgira, ça, mais non. Pour l'instant, c'est... je jouis plutôt du temps présent.
Et puisque vous continuez à faire des recherches, est-ce que si quelqu'un vous contacte demain, après-demain, après-après-demain, l'année prochaine peut-être, ouais, avec des nouvelles informations sur cette lignée des Bancelles, vous, vous en faites quoi ?
Ah bah, d'une part, je suis toujours preneur, on peut toujours corriger des choses qu'on a dit, parce que l'histoire n'a jamais une science exacte, hein, c'est clair. Et puis d'autre part, bah, je peux aussi communiquer ça à des jeunes qui, à l'heure actuelle, font des mémoires à l'UNI, etc. Je pense que c'est un sujet vraiment qu'on peut défricher et où il y a beaucoup de choses à trouver encore. Mmh, mmh.
Votre ouvrage, quand est-ce qu'il paraît réellement ?
Alors, début novembre, chez Antipode, ici à Lausanne. Oui. On aura ce vendredi une présentation du bouquin. Il y aura un comédien sénégalais qui va lire pendant une petite demi-heure des extraits du livre. Et puis le livre, mais il ne sera pas encore imprimé à ce moment-là. Oui. Il paraîtra, je crois, 15 jours plus tard. Et là,
à mi-novembre à peu près.
Ouais, il y aura au cinéma Bellevaux, de nouveau, je crois, une présentation. Mais ça, il faut demander à l'éditeur, je ne sais pas.
Ah ben on lui demandera, tiens, ouais, pourquoi pas. Votre prochain ouvrage, donc, Des Suisses au cœur de la traite négrière, de Marseille à l'île de France, d'Amsterdam en Guyane, 1770-1840. C'est votre livre, Olivier Pavillon. Merci beaucoup d'être passé par Radio Django ce soir.
Merci à vous.
Plein succès pour vos ouvrages et pour vos futures recherches, puisqu'il y a toujours à faire. Merci beaucoup, Olivier Pavillon. Vous êtes l'auteur et expert de cette question. Belle soirée à vous et merci également à Linda pour la préparation de ce sujet. Un sujet et une série de détails et de liens retrouvés sur notre site www.django.fm.
Merci à vous.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous avons parlé ce soir des 10 ans de l'association des Jardins du Flon. Nous avons parlé également de la Indian Association of Lausanne, premier volet d'une série de 4 épisodes consacrés à l'Inde. Et à l'instant, c'était de la rencontre avec Olivier Pavillon pour parler de ce livre, Des Suisses au cœur de la traite négrière, de Marseille à l'Île-de-France, d'Amsterdam en Gruyère, 1770-1840. Voilà, pour vous récapituler les sujets de ce soir. Tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter en podcast avec tout plein d'informations que nos chroniqueurs s'acharnent chaque semaine à vous donner et à vous préparer, à vous compiler, etc. avec l'équipe du web. Tout ça pour notre site www.django.fm. La semaine prochaine, on continue avec l'association des Indiens en Suisse, mais cette fois-ci, ce sera avec l'association de l'EPFL, les étudiants de l'EPFL, l'association Yuva. Pour le reste, on vous tiendra informé, bien sûr, grâce à notre site internet et à notre page Facebook, qu'on vous encourage, bien sûr, d'aller la suivre et de la partager, de partager également tous les posts que vous allez y trouver. Invitez vos amis, ça nous fera plaisir et ça fera transmettre l'information plus loin à notre page Facebook Radio Django. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau Grand Direct à écouter comme chaque semaine sur Radio Django, sur notre site directement radio.django.fm et sur Radio La Fabrique qui nous offre le DAB sur le pourtour du bassin lémanique et en région genevoise. Merci beaucoup à Nico, à la technique et à toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser cette émission ce soir. Ségolène, Daniel et Linda. Merci également à nos nombreux invités de la soirée. Encore une fois, je vous renvoie sur notre site pour réécouter cette émission et la partager. Je vous donne rendez-vous mardi prochain dans l'immédiat à partir de 18h pour votre heure de vie lausannoise. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Vous écoutez Radio Django et Radio La Fabrique. Il est 19h.
Django à écouter sur radio.django.fm.